De Fougères en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Heureux de vous retrouver sur le chemin de halage de la Mayenne en compagnie de Monique Leroux Serre pour De Fougères en libellule, un livre publié aux éditions Pipa et que je vais vous lire, que je suis d'ailleurs en train de vous lire depuis le début de l'été, in extenso. Reprenons notre promenade dès à présent si vous le voulez bien. Sur l'étang relié à la Mayenne par un petit canal passant sous un pont arrondi, beaucoup de canards, une poule d'eau aussi et des bergeronnettes des ruisseaux. Un moment, un grand chien loup se jette à l'eau vers les canetons. Les cris de la mer. Oh, oh, oh. Mais le maître est loin. J'élève la voix pour chasser le chien. Je veux voir encore les bébés, petits bouchons poilus qui flottent autour de la canne. Cerné par l'orage, dans une trouée profonde, libre l'azur. Cerné par l'orage, dans une trouée profonde, libre l'azur. Au coup de tonnerre, la vieille dame décolle du sol avec son parapluie. Au coup de tonnerre, la vieille dame décolle du sol avec son parapluie. L'averse s'amplifie. Je rentre à l'hôtel. Dans la salle à manger, grande comme une salle des fêtes, tous les couverts, une centaine, sont dressés. Mais nous sommes seulement 4 ou 5. Des représentants, sans doute, peut-être quelques travailleurs à la construction de la ligne du TGV, toute proche aussi. 4 ou 5 à dîner, perdus dans l'immensité froide. Personne ne parle, ni le serveur, ni les hommes entre eux, isolés chacun à leur table. Étant la seule femme, je n'ose engager la conversation. En entrée, on a un buffet à volonté de charcuterie et de crudités, puis on nous sert un rôti de veau avec des pommes de terre sautées et une tarte aux mirabelles. On entend juste le bruit des couverts sur les assiettes. C'est pesant. Je lis pour m'occuper. Tout le dépliant sur le chemin de halage et la rivière de la Mayenne. Revenu dans ma chambre, j'essaie d'envoyer quelques mails. La liaison Wi-Fi de la chambre est éprouvante. Il faut cliquer toutes les 4 ou 5 minutes, ce qui déclenche une vidéo publicitaire pour rester en ligne. Je lis quelques pages du journal du réel gravé sur un bâton de Michel Jourdan. 22h. Couché, je m'interroge sur le fait de se sentir si bien, perdu dans le paysage, entouré d'eau, de terre, d'arbres, de plantes, d'oiseaux. Loin des codes sociaux, vivre sans le regard des autres, sans se soucier de l'effet qu'on donne, vivre seulement, être tout simplement. Il est étrange de passer d'une zone urbaine à une zone sauvage sans vie sociale. La ville est violente, avec ses routes, ses bruits, ses fureurs, ses façades, ses angles droits de pierre et de béton, ses objets roulant à grande vitesse et dangereux. Mais les zones sauvages n'offrent, elles non plus, rien de tendre. Le paysage idéal, pour moi, et dans l'entre-deux. J'aime plus que tout ces dernières maisons et jardins du village, tournés vers la rivière, la nature, ces jardins amoureusement entretenus et fleuris, ces potagers beaux pour le plaisir des passants, pour le plaisir des yeux, du nez, ou le plaisir de donner légumes, bouquets ou fruits des vergers à ceux qu'on aime. tout ce temps quotidien consacré au fil des saisons, au fil des années, à désherber, à biner, à arroser, à récolter. Comme par cette femme en blouse bleue, pliant deux, aperçue dans son jardin à l'entrée de changer et que j'ai fixée sur l'une de mes photos. Posée sur le muret, quelques grappes de raisin, une salade frisée. Posée sur le muret, quelques grappes de raisin, une salade frisée. J'ai tant connu ces jardins, celui de mon grand-père maternel à Saulges, au moulin du Bas-Montguillon. On le trouvait au bord de l'Erve, au-delà des trois petits ponts, caché entre les hautes haies d'un chemin qui menait à des herbages. Celui de mon grand-père paternel, cerné de tous côtés de vieux murs en plein centre du bourg de Chéméré-le-Roi. Ceux de mes parents, dans les fermes où nous avons habité. Celui des Champs Rouges à Saint-Loup du Dorat, où des soucis orangés colonisaient les fraisiers. Celui de Guinefol derrière la maison sur le coteau, puis celui du Gast près de la cour et de la mare où barbotaient les canards blancs, à Beaumont-Pied-de-Bœuf, à quelques kilomètres du chemin de halage où j'avance. Les jardins de Parcé rangés en bout de village, dans la zone inondable le long de la Sarthe, sous les fenêtres de notre maison, et celui en plein verger, sans clôture, de Madame Delaune à Asnières, où elle a installé une boîte aux lettres pour que je puisse lui glisser un mot lors de mes très fréquentes promenades dans ce village. Lumière éteinte, je suis encore tout habité par les vastes moutonnements de châtaigniers en fleurs, de saules, de frênes, par les immenses étendues vertes et par mon respire sous mon capuchon. Le projet que je réalise en ces jours-ci, sur les traces de Thoreau ou de Michel Jourdan, c'est d'être pleinement là, d'être pleinement attentive au lieu où je suis. Même si, par-ci, par-là, quelques idées négatives me traversent encore, même ici, loin du quotidien, des déceptions. Mais à quoi bon avoir amertume, puisque tout est donné? Trop souvent, nous l'oublions. Il faut faire confiance, tout le temps. Je pense aussi à la solitude, au bienfait de la solitude. Les êtres d'aujourd'hui, souvent urbains, ont perdu le sens de la solitude, la force bénéfique de s'assurer, seul, dans le vivant. Les gens rencontrés cette semaine, le plus souvent, ne me disent rien, ne me posent pas de questions, encore moins les hommes qui gèrent l'hôtel, le serveur au restaurant, au café PMU, sur le chemin, parce que, me semble-t-il, plus encore étant femme, je sors du cadre. On ne sait pas comment me situer, dans quelle case me ranger. On ne sait quelles questions me poser. On ne veut pas d'embrouille. Et moi, je ne fais rien non plus pour installer un pont. J'ai choisi de pérégriner pour réaliser ce que j'estime avoir à faire sans prendre en compte ce qu'on pourrait en penser. Pour être sans avoir à me justifier, je n'attends pas une reconnaissance. Marchant, je me lave de tous mes rôles, rôle social, rôle familial, rôle professionnel, rôle de femme. On a tant de rôles dans la société, de cadres à respecter. Ici, pas de bijoux, pas de maquillage, pas de conduite à tenir. Immergé dans le paysage, la nature foisonnante de la vallée. Et la plus grande découverte de cette expérience, c'est de sentir, comprendre que la terre, le monde peuvent se passer de nous. On échappe à son individualité. On pourrait penser que cette prise de conscience nous rabaisse, que cela nous humilie, nous fait mal. Pas du tout. Cela nous remplit de joie, nous rend claire la seule voie possible, être soi dans un monde qui nous dépasse. De Fougère en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux-Serre. Sortir des conventions, comme Michel Jourdan que je lis ce soir et qui crée le style qui lui convient, juste une succession de mots sans phrase et sans syntaxe. Il note ce qui est, comme les poètes premiers, dont les œuvres consistaient en simples listes de dénominations. Dans la nuit, des images persistent, me trottent dans la tête, parce que je ne les ai pas notées sur mon carnet avant de m'endormir. Celle-ci par exemple. Au cours de la journée, mon attention fut à un moment attirée par un petit rapace qui passait au-dessus de la rivière, fin de corps avec des ailes petites en triangle isocèle et qui poussait des cris rapides et très aigus d'appel à l'aide. Je me suis arrêté pour l'observer. En fait, il était accompagné d'un rapace adulte de la même famille, son père ou sa mère, qui lui donnait ses premières leçons de vol. L'adulte, qui avait une bien plus grande envergure, une buse peut-être, le suivait, tournait autour, l'encourageait avec des cris beaucoup plus rauques, plus espacés et sans doute rassurants. Cette autre expérience aussi. Assise sur une borne, je voyais dans un rayon de soleil deux papillons marrons. Le pire du pire à mon goût pour des papillons. Rien d'exceptionnel, pensais-je. Mais ils tournaient près de moi, l'un autour de l'autre, dans une danse endiablée. Parade d'amour. Et ils tournaient si vite qu'à certains moments j'en vis, j'avais le temps de compter, trois, même à d'autres moments, quatre. Puis ils se séparèrent, et allèrent chacun leur chemin. Feu follet d'été, vont et viennent par deux, papillons taquins. Ces papillons, si ternes au demeurant, m'amenèrent à méditer sur notre rapport au monde entre sensations et illusions, me rappelant la fameuse fable de Chuang Tzu où le poète qui se réveille ne sait plus s'il a rêvé d'un papillon ou si c'était un papillon qui rêvait de lui. Mais moi, je m'endors. Quatrième jour. Petit déjeuner au bar-tabac de l'hôtel des voyageurs a changé. Quelques clients sont installés au bar. Assis à une table, deux hommes et une femme s'étonnent des dates de vacances scolaires. S'insurgent contre les décideurs. Il ferait bien de... Puis ils discutent d'une photo de radar où l'on voit une femme à moto en string. La femme, elle, parle d'un nouvel emploi où elle a été envoyée par Pôle emploi. Elle s'est présentée. On propose 2 heures par jour pour servir le repas du midi chez un routier à l'autre bout de Laval. Heureusement, je travaille aussi le matin de 4 à 6, je livre Ouest France. Ben, les jeunes de 18-20 ans qui ne foutent rien, faut les forcer. Oui, mais ben, il faut avoir sa voiture. Les autres qui livrent sont tous des retraités qui font ça en plus. Heureusement, je fais aussi des animations dans les magasins. Mais ça ne suffit pas. Alors, j'ai décidé d'aller en plus à l'association pour garder les petits vieux. Je ferai un mi-temps. Ben, du coup, bonjour les vacances. Il paraît que maintenant, ceux qui travaillent à temps partiel ne perdent pas. Ben, moi, en mars, reprend la femme, quand j'ai dépassé les 110 heures à l'hôpital, j'ai perdu 800 euros. Il y a des inepties, dit l'un des hommes. Pendant le petit déjeuner commence à tomber un crachin qui noircit le goudron luisant de la route. Comme il est encore tôt, je décide d'aller faire un tour vers les lotissements, car j'aime les noms des rues. J'aime savoir le comment, le pourquoi des mots. Nommer les choses. Petite, j'étais étonné par le nom des fermes, des rivières et ceux des champs, écrits sur chaque parcelle du cadastre à la mairie. Quand mon père partait travailler sur la ferme, il nous disait toujours où il allait. Dans la grande fouillée, dans le champ des trois cornières, dans la deuxième butte, dans la petite lignière, dans le champ de la grandinière. Et chaque nom a son histoire. Ainsi, la Mayenne tire son nom d'une appellation celtique, Mahen, qui a donné Medwana, Mahen, Mehen ou Men, et enfin Mayenne. On peut donc dire, d'après son nom, que la Maine, formée de la réunion de la Sarthe et la Mayenne, juste avant Angers, et qui va se jeter dans la Loire au pont de Cé, est encore la Mayenne. J'étudie le plan de changer devant la mairie. Pour chaque lotissement, il y a tant de lotissements en Mayenne comme dans tant de villes et villages de France, les autorités doivent choisir de nouvelles appellations de rues. Je vois qu'à un bout de la ville, de nouvelles rues pavillonnaires ont toutes hérité d'un nom de champignon, qu'un autre quartier honore le travail des anciens artisans, la rue des luthiers, des boisseliers, des sabotiers, des tanneurs, des dentelières, des couturières, que le nouveau quartier haute technologie, mais est-ce encore changé ou bien Laval ? Les deux villes se touchent maintenant. Le nouveau quartier haute technologie a pris des noms plus pompeux. Léonard de Vinci, Marie Curie, Henri Becquerel, Louis Ampère. D'abord, je traverse un lotissement au nom de métier de la rivière, ce qui est assez rare, peut-être unique dans le département. Les décideurs ont-ils voulu donner pour la commune un signal fort sur sa situation au bord de l'eau pour attirer les touristes et les habitants de Laval, la ville voisine ? Ou bien, ce que je crois, faire commémoration d'aïeux plus ou moins anciens dont les métiers tournés vers la rivière disparaissent. Et l'on trouve la rue des Pontonniers, des Lavandières, de la Batellerie, des Éclusiers, des Passeurs, des Régates, du Bief et des Barges. Mais le quartier qui a ma préférence et où je me rends, c'est celui qui reprend le nom des mois du calendrier révolutionnaire. Il faut croire que la ville, dans un département pourtant très chouan, a voulu faire, à un moment de son histoire, la nique à l'église et aux grégoriens. Je déambule et je découvre la rue Prairiale, l'impasse Thermidor, puis Messidor, la rue Fructidor, l'impasse Floréale, Germinal et Brumaire. C'est drôle, aucune trace de Nivose, Pluviose et Ventose, ni Frimaire. À la campagne, personne n'aime l'hiver. Pas de traces non plus de vendémiaire. On est loin maintenant des pays à vendange. L'avenue qui serpente dans tout le quartier s'appelle, comme il se doit, l'avenue Fabre d'Églantine, ce poète à qui fut confiée la responsabilité de concevoir les noms de ce calendrier. Je me promène dans le quartier qui n'est plus ni rouge ni ouvrier. Ce ne sont que grandes maisons avec une belle arborisation et de riches haies végétalisées. Ce quartier, au vu des plantations, doit bien avoir une trentaine d'années. On sent la classe aisée de la grande ville d'à côté, mais ce qui le rend très particulier et charmant, c'est qu'on y retrouve non pas les espèces exotiques des pépiniéristes, mais les beaux arbres du bocage mayennais, les pommiers, les grands chênes, des taillis de noisetiers. De Fougère en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. À 10h, sur réservation, j'ai la grande joie d'aller visiter la chapelle de Pritz. Je vais voir enfin son fameux calendrier des mois, redécouvert seulement vers 1850. J'attendais de découvrir ce lieu, devenu privé maintenant depuis des mois, des années. La chapelle, située sur un terrain clos en face d'une maison de maître, à les dimensions d'une grande remise. Elle a le chevet tourné vers la Mayenne qui passe juste à ses pieds. Notre-Dame de Pritz tirerait son nom de Notre-Dame des Périls pour protéger les gens qui traversaient la Mayenne à un gué tout proche. Cette chapelle fut un temps la seule église paroissiale de Laval. Il y reste une statue qui, faute de voyageurs à protéger avec les ponts modernes, s'est reconvertie en protectrice des marcheurs. Des pèlerines apportent encore aujourd'hui, qui l'eût cru, des chaussons tricotés d'enfants. Comme l'église n'est plus ouverte au public, elles font leur dépôt sous le portail. Les gens de l'association qui disposent des clés ramassent les objets déposés et les installent au pied de la statue. Dans nos campagnes, bien des chapelles en plein champ était ainsi visité par les maires qui en faisaient faire le tour à leur bambin en le soutenant sous les aisselles pour que les petits pieds s'assurent. Soleil levant, l'enfant fait ses premiers pas vers l'horizon. Soleil levant, l'enfant fait ses premiers pas vers l'horizon. Ah, cette attention des mères aux premiers pas de leur enfant, elle me touche, moi qui chemine. Lao Tzu n'aurait pu que les encourager, lui qui disait « Une tour de 9 étages s'élève à partir d'une butte de terre. Un voyage de 1000 lieues commence à vos pieds. Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez, il faut d'abord commencer par un simple pas. » Un pied devant l'autre, je m'évade sur le halage. Ah, liberté! Un pied devant l'autre, je m'évade sur le halage. Ah, liberté! Sous le cintre de l'arcade qui sépare le chœur et la nef, fut peint un premier zodiaque à l'époque romane, que l'on a repeint à l'époque gothique en inversant les côtés, ce qui fait qu'actuellement, le mois de décembre qui s'efface laisse apparaître des traces du mois de janvier plus ancien. Chaque mois a son nom écrit en latin, en caractère gothique rouge, au-dessus d'un personnage qui représente une activité caractéristique de la saison. Et l'on voit, sur fond blanc de chaux, des dessins naïfs mais expressifs aux couleurs ocre, rouge et terre de sienne. Janvier, un homme assis à un banquet. Février, un personnage qui se chauffe à la cheminée. Mars, le même qui taille des arbustes avant la venue des feuilles. Avril, portant quelques fleurs printanières. Mai, un jeune homme à cheval. Juin, un paysan fauche le foin. Juillet, le même coupe le blé à la faux. Août, le même bat la récolte. Septembre, il fait les vendanges. Octobre, portant des grains dans un tablier, il sème un champ. Novembre et décembre sont trop effacés. Ce résumé en images de la vie quotidienne calme nos questions angoissées sur le temps qui passe, sur le sens de la vie. S'en tenir à ce qui fait notre quotidien d'ici et d'aujourd'hui. Rester attentif et attentionné au moment présent. C'était déjà la leçon de Gilgamesh. dans la légende la plus ancienne du monde qui raconte la vie de celui qui ne voulait pas mourir. 29 février, né dans la pliure du calendrier. 29 février, né dans la pliure du calendrier. Est-ce pour cela que j'aime tant les calendriers? Ménologue, tableau des mois et des saints martyrs. Compute, du latin computus, signifiant compte. Calendrier des fêtes mobiles avec le nombre d'or, les signes du zodiaque, la course des astres. Ordo, calendrier liturgique qui présente les différentes parties de l'année liturgique. Livre d'heures, almanach, mot d'origine arabe contenant le radical ma qui signifie lune ou mois. Agenda, annuaire, éphéméride, du latin éphéméris, récit d'événements quotidiens issu du mot grec héméra qui signifiait jour. Goutte à goutte, fumée de bâton d'encens, qu'est-ce que le temps? Goutte à goutte, fumée de bâton d'encens, qu'est-ce que le temps? Voilà, fin de cette quatrième étape sur le chemin de halage de la Mayenne en compagnie de Monique Leroux-Serre, une promenade qui a donné lieu à l'écriture d'un haïbun, c'est-à-dire un récit de voyage mêlant des proses et des haïkus, haïbun intitulé de Fougères en libellule et édité aux éditions Pipa, un livre de Monique Leroux-Serre que vous pouvez évidemment vous procurer en le commandant chez votre libraire. Mais n'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine pour la cinquième étape de ce voyage estival. Excellente fin de journée à toutes, à tous, à chacun, à chacune. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez fidèles à Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.